Fréquence Mistral. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Fréquence Mistral. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir mon ami Amine. Salut Amine.
Salut Rémi, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui.
Bienvenue, surtout que ça fait un certain temps qu'on envisage de faire un épisode ensemble.
C'est vrai.
Et bien, bienvenue à la radio. Donc, comme tu le sais, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ton parcours de vie, tes origines, les différentes langues que tu parles. Donc, je vais commencer avec une question très large. Amine, qui es-tu, d'où viens-tu et quelle langue parles-tu?
Moi, je suis marocain, je suis né là-bas, Casablanca. Je suis arrivé en France à 18 ans. Et là, je suis toujours en France, j'ai 32 ans, je suis toujours en France. Et juste une aparté, apparemment, c'est la première fois que tu accueilles un arabe ici, à la radio.
C'est la première fois.
Tu as fait 9 émissions, c'est la première fois à Marseille, et franchement, tu as fait fort. Bravo. Je suis très content de représenter cette communauté et cette langue, surtout.
Tu as la pression sur les épaules ou pas?
Un peu, ouais.
Génial.
On a une histoire derrière, mais on en parlera.
Mais justement, parlons-en un petit peu. Donc, tu viens du Maroc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différentes langues qui sont parlées au Maroc ou même de façon générale au Maghreb?
Ok. Moi, il faut savoir que ma mère, elle est amazigh, donc elle parle arabe, mais sa langue maternelle, c'est l'amazigh. On peut dire que c'est le berbère, des fois on dit c'est le berbère, ou en Algérie, par exemple, la Kabylie. Et mon père, il est arabe, du coup, on parle majoritairement la darija. Voilà. La darija, des fois, on dit que c'est un dialecte, mais c'est une langue à part entière, qui a sa propre écriture aussi. On l'écrit même avec des lettres de l'alphabet, quoi. Pas de l'alphabet marocain. C'est pour ça que des fois, tu vois des textos, des Arabes, ils écrivent avec des chiffres, le 3, le 7 et tout. Et voilà.
Et quand tu étais à l'école au Maroc, c'était quoi la langue la plus parlée au sein de l'école avec tes amis?
En fait, de l'école, de la maternelle jusqu'au baccalauréat, dans une école publique, la langue parlée, c'est l'arabe. Donc on a des cours de français, parce que à l'époque, c'était notre deuxième langue, le français. Là, ça a changé il y a quelques années. Notre deuxième langue, c'est devenu l'amazigh, qui a son propre alphabet aussi. Mais c'est majoritairement en arabe. Après, on a beaucoup d'écoles françaises au Maroc. Et le truc, c'est que juste après le bac, quand on arrive à la fac, moi, j'ai pas fait l'université là-bas, mais on switch de langue et on parle français à l'université. Parce que c'est plus pratique pour le travail après.
Très bien, ok. Oui. Tu as évoqué le fait que tu es arrivé en France à 18 ans.
Oui.
Donc là, j'imagine que le français a pris une place beaucoup plus importante dans ta vie à ce moment-là, parce que tout simplement, tu l'entendais beaucoup plus autour de toi.
Oui.
Tu m'avais évoqué justement, en arrivant en France, ton français n'était pas le même qu'aujourd'hui.
Oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer?
Ah oui, moi, quand je suis arrivé en France, j'avais un accent très fort. Vraiment un accent qui j'avais honte de parler des fois, parce que dès que je parlais, je sentais des gens sourire ou se moquer. Du coup, ça m'a un peu, ouais, j'étais un peu déçu au début, et je pense inconsciemment j'ai voulu perdre cet accent, et petit à petit je l'ai perdu. Je me souviens en 2017, après ma sortie d'école, donc au début de ma carrière professionnelle, on va dire, quand je suis arrivé à l'entreprise, je me suis dit, là, inconsciemment, je me suis dit, il faut que je perde l'accent, et bam, il a disparu. Et je le sentais beaucoup à l'école lors des exposés. C'est quand on faisait des exposés, moi, dès que je parlais, en plus c'était des trucs scientifiques parce que j'ai fait une école d'ingénieur, dès que je parlais, les gens se moquaient et du coup, ils prenaient plus... J'exagère là, hein, ça va, j'ai une belle vie. Mais,
ouais, mais tout de même, c'est des choses qui peuvent être très difficiles à vivre et...
Ouais, ouais. Là, j'exagère un peu le trait, mais ça faisait partie, c'était la raison principale pour laquelle j'ai perdu l'accent. Je le retrouve des fois quand je suis énervé. Je retrouve beaucoup, mais là, je fais aucun effort pour avoir cet accent-là.
Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi il revient quand t'es énervé?
Parce que j'ai envie d'insulter les gens en arabe, je pense. Donc, je fais un mix, je retrouve l'accent. L'équilibre que je trouve en étant énervé, c'est de parler français avec un accent marocain.
Justement, ça introduit un petit peu ma question centrale. C'est toi qui es bilingue. Le rapport que tu as à ces différentes langues est forcément différent, je pense. Si tu pouvais me décrire un petit peu ton rapport au français, à l'arabe. Quand je dis rapport, c'est voilà, un enjeu personnel, un rapport affectif, même une confiance. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit?
Ouais, c'était progressif parce que moi, quand je suis arrivé en France, je réfléchissais en arabe. Je traduisais dans ma tête pour parler de français et arabe. Et petit à petit, je réfléchissais en français, même je faisais des rêves en français. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est le langage émotionnel, je l'ai appris en français. Moi, quand je veux parler de mes émotions, c'est plus facile pour moi de parler français que l'arabe. Et du coup, ouais, parce que avec mes amis, par exemple mes amis marocains, j'ai un blocage émotionnel quand je veux leur dire que je les aime, etc. J'arrive pas en arabe.
Est-ce que ça, c'est quelque chose qui dépasse ta simple bande de potes? Est-ce que c'est culturel au Maroc où on a plus de
Ouais.
pudeur d'une certaine manière d'exprimer ses émotions ou
Il y a
pas?
un peu de ça, il y a un peu de pudeur, mais je pense que c'est juste une question de période, parce que ma vie d'adulte, je l'ai vécue en France. Et c'est lorsque tu es adulte que tu apprends à parler de tes émotions. Étant petit, on ne parle pas beaucoup de nos émotions. Du coup, c'est le fait d'avoir vécu en France à l'âge adulte qui explique cela.
C'est vrai que tu parlais des rêves, c'est assez intéressant ce qu'on m'a souvent demandé. C'est une question vraiment qui m'est souvent revenue. Tu rêves en quelle langue? Et je disais, mais au début, j'avais beaucoup de mal à répondre à cette question. Et si je rêve d'un contexte qui me renvoie à ma famille maternelle, je vais automatiquement rêver en anglais. Parce que ma famille maternelle n'est pas du tout francophone. Mais si je rêve de mes potes,
C'est vrai.
automatiquement, je vais rêver en français. Et en fait, j'arrive à cette conclusion-là. Je ne me souviens pas forcément de quelle langue est mon rêve, mais je me souviens du contexte. Et les contextes ont parfois des langues, comme tu as un petit peu évoqué, tu vois. Donc ouais, super.
C'est vrai que moi j'avais fait un an en Suède à Stockholm, Erasmus, et du coup on parlait anglais. Et là-bas, bah, je rêvais pas.
En suédois.
Non, je rêvais genre que des cauchemars où j'arrivais pas à nager et tout, je parlais pas. Mais je te promets, hein, c'était progressif le fait de passer de l'arabe au français, des rêves. Je pense que ça a pas fait un switch. Et t'as raison, parce que quand je vais rêver de mes parents, je vais pas leur parler en français, tu vois, je vais leur parler en arabe. Quand je vais rêver, je sais pas, quand j'étais en Suède, mes potes suédois, je vais leur parler en anglais.
Pendant cette année en Suède, tu n'as pas du tout parlé arabe?
Moi, franchement, que ce soit en Suède ou en France, les seules fois où je parle arabe, c'est quand j'appelle mes parents et mon frère, quand je parle à ma famille, au téléphone. Mais ici, mon entourage, on parle français, même quand j'ai des potes marocains, c'est naturellement, on parle le français parce qu'autour, on a des potes français, donc on va pas faire des apartés. Et d'ailleurs, moi, j'ai du mal à mélanger. Ici en France, on fait beaucoup ça. On parle français, on met des mots en arabe, même si c'est juste, des fois on se trompe. Hein. Mais quand je dis on, c'est les Français se trompent, ils utilisent des Inch'Allah pas au bon moment. Mais moi, j'ai pas cette habitude, j'y arrive pas à mettre des mots en arabe quand je parle français. Peut-être que parce que je suis rigoureux dans ma manière de parler.
Est-ce que parfois tu as un sentiment est-ce que ça te manque parfois de parler l'arabe ou le fait d'avoir accès à ta famille par téléphone, ça te
Ouais.
permet de justement pas avoir ce manque?
Moi, ce qui me manque au-delà de la langue, c'est les refs. C'est un peu les références qu'on a au Maroc au début. Ben, après, on parlera d'humour. Mais quand je suis arrivé, parce qu'au Maroc, moi, j'étais. Quand je rigolais avec mes amis et tout, c'était par rapport aux refs du Maroc. Donc, on n'a pas eu les mêmes dessins animés qu'en France, on n'a pas la même télé, les mêmes histoires, la même culture. Donc les anecdotes, pour moi, elles étaient plus marrantes avec des refs en arabe qu'en français. Du coup, quand je suis arrivé en France, pour m'adapter à l'humour français et pour avoir les mêmes refs que les Français, c'était un peu difficile au début. Voilà. Donc c'est ce qui me manquerait, c'est plus ces refs que de parler arabe.
C'est beau, merci de ce partage. Tu
Plaisir.
parlais d'humour, on s'est en effet rencontrés en faisant du stand-up,
Oui.
à la fois en français mais surtout en
En
anglais.
anglais,
On a
ouais.
eu la chance de partager
Ouais.
quelques plateaux ensemble. Ça fait combien de temps que tu fais du stand-up?
Moi, ça va bientôt faire 3 ans.
Ok.
En janvier, ça va faire 3 ans.
Et est-ce que tu peux dire rapidement comment et pourquoi avoir commencé?
On me pose souvent la question. Moi, j'ai toujours été fan de stand-up, consommateur, même des On demande qu'à en rire. J'étais au Maroc, j'allumais France 2 et tout. Je regardais toutes les émissions sur YouTube, les Jamel Comedy Club et tout. Et pour moi, c'était un métier comme footballeur, en fait, difficile d'accès, qu'il fallait avoir un talent de fou. qu'il fallait être, je sais pas, privilégié ou être conditionné depuis tout petit pour faire ce métier. Et il y a 3 ans, il y a eu mon meilleur pote là, Raphaël Cohen, à qui je fais une dédicace, qui a commencé le stand-up au Garage Comedy Club. Et c'était, je me souviens, en septembre, il m'a dit, je prends des cours de stand-up. Et moi, je me suis moqué. J'ai dit, genre, toi, tu vas faire du stand-up et tout. Au début, j'étais moqueur. Il me faisait ses blagues. Je disais, oh, mais ça, c'est pas drôle et tout. Genre, au début, j'étais vraiment moqueur. Et je suis allé le voir en décembre à sa première scène. C'était la première scène de tous les, c'était les bleus de travail.
Les élèves du
Les
garage
élèves du
Comedy Club, ouais.
garage, c'est ça. Et ils étaient 10. Ils faisaient tous leur première scène. J'étais au premier rang, tout excité pour voir mon pote. Je regarde et je me dis, en fait, tout le monde peut faire ça. J'ai vu. Après, ils étaient pas très drôles. Hein, on va pas se mentir. Là, ils ont progressé de fou. Mais quand j'ai vu que c'était facile d'accès, je me suis dit, mais moi aussi, je peux écrire en 5 minutes et monter sur scène. Et du coup, en décembre, j'ai vu leur première scène. Je suis rentré chez moi. J'ai passé un mois à essayer de faire un 5 minutes. En janvier, je me suis inscrit au cours. Je suis monté sur scène. Je suis sorti de scène. J'ai eu un mélange de, je sais pas, d'hormones du bonheur dans ma tête. Et je me suis dit, je veux faire ça le lendemain.
Alors, je vais rien spoiler, moi je les connais bien, tes sketchs, mais une question c'est pourquoi aborder tes origines dans tes sketchs, chose que tu fais souvent?
Oui, c'est automatique en fait. J'y pense même pas. J'étais déjà influencé dans le stand-up. J'étais influencé par beaucoup d'humoristes d'origine maghrébine, du genre Malik Bentala, Mustapha El Atrassi, qui parlent beaucoup d'eux. Et du coup, le premier sujet qui me vient en tête, c'est moi en fait. C'est le plus simple d'ailleurs des sujets, c'est de parler de soi. Et surtout, qu'on a chacun notre petite histoire. Hein. Il suffit pas d'avoir vécu dans plusieurs pays ou d'avoir immigré ou de parler plusieurs langues pour avoir une histoire. On a tous notre histoire. Et le premier sujet qui m'est venu en tête, c'est de parler de moi, de parler de mes origines. Du coup, c'était un peu mes premiers sketchs. Là, j'essaie d'aller au-delà, de parler de sujets un peu, on va dire, controversés. J'essaie de faire ce pas. C'est compliqué parce qu'on n'est pas tous des Romains de Freycinet. Mais pour répondre à ta question, c'est un peu le sujet le plus facile qui m'est venu en tête, c'est de parler de mes origines, de comment je suis venu en France, de comment je vis ma vie en France. Et des fois, ça permet aussi d'expliquer aux gens que c'est pas si facile en fait, que c'est pas un privilège en fait d'être venu en France. Moi, c'est un peu ça que je veux véhiculer à travers mes sketchs. C'est que oui, on a décidé de venir en France pour avoir peut-être une meilleure vie, mais c'est pas forcément une meilleure vie.
Tu joues beaucoup en français, mais tu joues
Oui,
aussi en
en
anglais,
anglais,
et tu as fait
j'adore.
une scène en arabe.
Oui.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu te sens sur
L'anglais,
scène
ah oui.
en anglais et cette scène
Ah,
arabe?
ma première scène en anglais, moi c'était magique. Hein. C'était. En fait, ça va, français-arabe, je suis vraiment bilingue 100%. L'anglais, je peux pas dire que je suis bilingue. J'ai fait un an en Suède et tout, je parle, je comprends. Mais c'est une langue que je maîtrise pas encore naturellement. Du coup, j'étais stressé. J'ai fait ma première scène en anglais 1 an et demi après avoir commencé le stand-up. J'ai retrouvé déjà l'adrénaline de la première scène. Quand je suis monté sur scène en anglais, tellement j'étais stressé que je voulais compenser avec mon attitude, ma personnalité en fait, mon personnage. Et du coup, il y a un personnage de clown qui est sorti sur scène et qui m'a fait rire d'abord moi et qui a fait rire les gens, peu importe après les fautes que je faisais en anglais. Mais j'ai trouvé que c'était un moment magique. Et du coup,
Et ce personnage de clown, tu ne l'avais pas en français?
il était moins prononcé. Il était moins prononcé qu'en anglais. Et j'essaie de le remettre sur scène en français, mais c'est pas la même chose en fait. Quand tu montes avec. En fait, en français, tu compenses beaucoup avec le texte. Et comme je sais que je peux avoir une répartie, je suis plus à l'aise. Alors que quand je monte en anglais, je sais que ma répartie va être faible, que mon vocabulaire est faible. Donc il faut que je sois. Et dans ma tête, mon inconscient, il me dit, il faut que je sois drôle. Donc tac, je suis clown. Voilà.
Tac.
Je suis un clown.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Tu es un clown, en effet, venez le voir. Tu nous as parlé de la scène que tu as faite en arabe. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails?
Ouais, c'était pour la première partie d'un très grand humoriste que j'adore, Warren Hichem d'ailleurs, qui fait des sketchs en français, espagnol, anglais, arabe. Du coup, il cherchait une première partie. C'est le dimanche 18h. On m'a prévenu dimanche à 16h. J'étais à la plage avec mon ami Ahmed. Je me suis dit, j'étais à la fois excité, j'avais peur, j'avais rien préparé. Je me suis dit, je vais traduire mes sketchs en français. J'ai commencé direct, fallait que je fasse un 10 minutes. J'ai répété vite fait. Et d'ailleurs, quand je parlais de ref, j'ai découvert qu'il y avait des blagues en français que je faisais en français, que quand j'ai traduisé en arabe, j'utilisais d'autres refs qui étaient plus drôles du coup. Du coup, ça m'a permis de vouloir la faire cette scène. Je suis monté sur scène, je me souviens la première chose que j'ai dit au public, il y avait genre 100 personnes à l'Antidote, c'était au théâtre de l'Antidote. J'aurais dit, est-ce que vous me comprenez quand je parle arabe? En arabe. J'étais choqué que 100 personnes me disent oui, on te comprend. Parce que je pense que j'ai jamais parlé à 100 personnes en arabe en France. C'était la première fois que je parlais avec 100 personnes en France, en arabe. Même de ma vie, je crois. Jamais parlé à 100 personnes. T'as déjà parlé à 100 personnes?
Je n'ai jamais parlé à 100 personnes.
Ouais, voilà. J'ai parlé à 100 personnes. En français, j'avais fait des grandes scènes. Mais bref. Ouais, c'était hors du temps. Moi, je me suis régalé. Je me suis régalé en parlant arabe. Et je sentais aussi. J'avais fait un peu d'interaction. Et en plus, la darija, c'était un public majoritairement algérien. La darija algérienne et la darija marocaine, il y a des petites subtilités, mais ça se ressemble beaucoup. Et moi, ma crainte, c'était qu'il y ait d'autres arabophones. Parce que la darija est très éloignée, par exemple, de l'arabe de Syrie, du Liban, du Moyen-Orient. Donc j'avais peur de ça, mais finalement, tout est passé.
Est-ce que cet arabe-là, justement, tu le comprendrais de Syrie, enfin du Levant?
Oui, ça c'est une question qu'on se pose souvent quand on connaît pas un peu les différentes, on va dire, branches de la langue arabe. C'est que nous, les Maghrébins, on a un arabe très éloigné de l'arabe littéraire. Et je pense que ça vient je maîtrise pas l'histoire, hein, mais de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai appris à l'école. Ça vient du fait qu'au début, on était des Amazighs, du coup, on parlait une autre langue, du coup, l'Amazigh. Et avec l'arrivée de l'islam il y a 15 siècles, l'arabe est venu s'imposer. Du coup, on a traduit des fois mot pour mot de l'amazigh en arabe. Et ça a créé ce qu'on appelle le dialecte, la darija. Avec la darija, ben, avec la colonisation espagnole, française et tout, de chaque pays, donc il y a une partie du Maroc qui parle la darija en mélangeant des mots en espagnol. C'est plus au nord, à Tanger. Il y a une partie au Maroc qui bah, vont plus parler darija proche du français. Donc elle est vraiment très éloignée de l'arabe littéraire, alors que les pays du Moyen-Orient, la Libye, pas la Libye, le Liban, la Syrie, l'Arabie Saoudite, leur arabe est plus proche de l'arabe littéraire. Donc pour nous, c'est plus compréhensible parce que l'arabe littéraire, on l'étudiait à l'école.
Génial, merci pour ces explications. Ouais, je
Avec
pense
plaisir.
et c'est important de le savoir parce qu'on derrière ce mot arabe, en fait, c'est une diversité linguistique qui est très riche
Oui.
et que ça vaut le coup de bah, justement de la comprendre et de la mentionner. Donc merci pour ce partage. Est-ce que tu penses bientôt refaire des scènes de stand-up en arabe?
Bah, j'aimerais bien, mais à Marseille, il n'y a pas de plateau arabe. Je sais qu'il y en a un à Paris qui sont venus une fois performer au Garage Comedy Club. Ça s'appelle Blédard, en deux mots, bled-art. J'y suis pas allé, mais j'aimerais bien y aller. Mais pourquoi pas monter un plateau en arabe ici à Marseille? Je pense que ça peut marcher et je serais
Absolument.
très heureux de participer, oui.
Et on te retrouvera très bientôt sur les plateaux. Ce que je propose généralement pour finir les épisodes, c'est finir en musique. Tu m'as envoyé un
Oui.
son, Amine, que je vais te laisser présenter. Alors c'est une musique qui est très connue, mais on ne connaît, on ne comprend pas plutôt les paroles. Donc est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce son et quel est
Ah
ce
oui,
son?
c'est Yarayeh de Rachid Taha. C'est une chanson qui est algérienne pour le coup, mais qui est en darija. C'est une chanson populaire d'ailleurs, c'est du shaabi, ce qu'on appelle du shaabi. La traduction de shaabi, c'est populaire. Et je pense que c'est Parashitai qui l'a écrite, c'est quelqu'un d'autre, j'ai oublié son nom, mais lui il l'a mis en valeur, il l'a rajouté en plus un petit côté rock, pop, pour que ça perce souvent. D'ailleurs, ce petit aparté, souvent il y a beaucoup de chansons en arabe qui sont incroyables, genre magnifiques, et qui percent, on va dire, à l'international quand on rajoute un petit remix deep house, un petit remix pop rock. Donc voilà.
Parle
Et
de
du
quoi
coup,
cette chanson?
elle va. Ouais. Je vais traduire mot pour mot un peu. Donc, il dit Ya raïh, wina msafir, t'rouh t'aïa ou t'wulli. Ya raïh, wina msafir, c'est oh, voyageur, où est-ce que tu voyages? T'rouh t'aïa ou t'wulli. Tu voyagerais autant de fois que tu veux, tu reviendras forcément à ton pays d'origine. T'rouh t'aïa ou t'wulli. شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي. Beaucoup de gens avant toi ont fait ces voyages et ils ont regretté. Voilà. Moi, ça me parle beaucoup cette chanson parce que c'est ce que je disais au début, c'est ce que je parle même dans mon stand-up. C'est qu'au début, on pense venir aller en France ou aller en Europe parce que ça va être la belle vie. Mais finalement, des fois, on galère plus que si on était resté dans notre pays d'origine. Du coup, ça me parle.
On écoute ça.
رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي.